Étude sur Jeanne d'Arc. Sa vie, ses voies, sa sainteté, sa soumission à l'Église, son procès et l'autorité ecclésiastique. Écrit par l'abbé Jean-Baptiste Jauger, licencié en théologie. Ce document, originellement paru en 1867, a été téléchargé du site Gallica en date du 4 octobre 2009. Préface. L'histoire de France n'offre point de figure plus sympathique que celle de Jeanne d'Arc. Gloire, vertu, malheur, cette héroïne a tout ce qui attire l'intérêt des hommes. Fille de la France et de l'Église, Jeanne d'Arc a été vendue par de mauvais Français et condamnée par de mauvais prêtres. Elle n'a pas même obtenu de la postérité justice entière. Plusieurs historiens ont cherché à la découronner de son plus beau titre de gloire, qui est sa mission surnaturelle, la représentant comme une hallucinée, une visionnaire. Beaucoup hésitent à reconnaître en elle une envoyée du ciel. D'autres prétendent que si elle reçut une mission, elle ne l'a pas accomplie avec fidélité. Enfin, on n'a pas craint de la calomnier en faisant d'elle une fille rebelle à sa mère, la Sainte Église catholique. C'est à l'Église que la France doit ce sauveur, puisque c'est l'Église qui a rendu Jeanne sainte, et, par conséquent, propre à recevoir l'inspiration divine, puisque ce sont les anges et les saints de l'Église qui ont fait connaître à Jeanne la volonté de Dieu sur elle, et qui l'ont miraculeusement protégée. Cependant, bien des Français ingrats ont dénaturé l'influence de l'Église sur la mission de Jeanne et ont rejeté sur le corps ecclésiastique tout entier, sur l'institution elle-même, ce qui, dans son malheureux procès, a été le fait de quelques individus seulement. Dans ce travail, j'essaierai de rendre à Jeanne toute la gloire qu'elle mérite et de venger l'Église des imputations calomnieuses de ses ennemis. Je chercherai dans la vie de Jeanne d'Arc à faire ressortir son vrai caractère, c'est-à-dire que je montrerai en elle le Messie miraculeusement envoyé par le Très-Haut pour le salut de la France, le Sauveur accomplissant la rédemption de sa patrie au prix de son sang, la pieuse chrétienne ornée de toutes les vertus qui font les grands saints. Je m'attacherai ensuite à démontrer la nature miraculeuse de son inspiration, l'héroïsme de sa sainteté et sa soumission à l'Église. Enfin, dans un dernier chapitre, je prouverai que l'odieux de son procès ne doit point retomber sur le corps de l'Église ni sur l'Inquisition, mais exclusivement sur les lâches et les traîtres qui ont condamné Jeanne. Chapitre 1er. Coup d'œil sur l'état de la France. Apparition de Jeanne d'Arc. Premières années de Jeanne. Ses voies. Son départ pour Chinon. Accueil du roi. Examen qu'elle subit. À cet endroit-ci, le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant le numéro 1 qui dit ce qui suit. Cette vie de Jeanne d'Arc est en grande partie empruntée à l'ouvrage intitulé « Histoire mémorable de la vie de Jeanne d'Arc », extraite des interrogatoires et réponses à ceux contenus au procès de condamnation, etc., par Jean Masson, archidiacre en l'église de Bayeux, Paris, 1612. Je me suis également servi de l'histoire du siège d'Orléans, des pièces des deux procès et des meilleurs ouvrages modernes sur la matière, entre parenthèses, Wallon, Quicherat, Guerre, Renard, etc. Retour au texte de l'abbé Jauger. Après une longue suite d'infortunes, La France était tombée au dernier degré de faiblesse et d'humiliation. Elle avait perdu sa force matérielle et sa force morale. Le dauphin Charles n'avait plus que le quart de son royaume. Paris était au pouvoir de l'Anglais, et le roi légitime avait dû choisir Bourges pour sa capitale. Ce qui était plus triste que toutes les défaites, la France entière était découragée. Les misères d'une guerre séculaire, les scandales donnés par les plus hauts représentants de l'aristocratie, les insurrections populaires des Maillotins et des Cabochiens, les brigandages des divers partis qui s'étaient successivement emparés du pouvoir, avaient comme éteint les nobles sentiments dans les cœurs français. À aucune époque de notre histoire, on a vu un abaissement des caractères aussi profond et aussi universel. À la tête de cette société est un roi livré au plaisir et doutant même de ses droits au trône. Il a eu pour père un fou et pour mère une débauchée. Les princes du sang ne songent qu'à leurs intérêts privés et violent les lois les plus sacrées pour un peu d'or et de puissance. Le clergé a des évêques, des prêtres et des universités capables de trahir leur roi et de condamner Jeanne. La bourgeoisie est animée de meilleurs sentiments, mais elle se lasse de la guerre et livre souvent, sans essayer de résistance, ses villes aux Anglais. Le peuple des campagnes, plongé dans la plus profonde misère, est prêt, pour l'ordinaire, à obéir au plus fort, et embarrassé même pour reconnaître son souverain légitime. Le roi garde encore autour de lui une poignée de braves, mais il n'a pas le courage de se mettre à leur tête, livré qu'il est aux influences d'indignes favoris qui se disputent sous ses yeux une vaine apparence de pouvoir. La France offrait donc tous les symptômes d'une fin prochaine, et le spectateur qui eut suivi le cours de cette maladie de la société, attaquée à l'intérieur comme à l'extérieur, eût cru pouvoir en marquer le dernier instant. Cependant, l'heure suprême n'avait point sonné pour la France. Dieu réservait à la fille aînée de son Église une trop belle mission pour la laisser périr. Il n'avait permis qu'elle descendît jusqu'aux portes du tombeau que pour l'en retirer avec plus de gloire. En effet, si les moyens humains semblaient manquer, un observateur attentif et chrétien eût pu remarquer dans cette société mourante un signe de résurrection. Au milieu des malheurs publics, la vie chrétienne avait repris dans le peuple et chez les âmes pieuses une nouvelle vigueur. Des missionnaires comme Thomas Couet, le frère Richard, enfant de Saint-Dominique ou de Saint-François, remuaient la France par leurs prédications. Dans les monastères, comme dans le monde, on adressait au ciel de ferventes prières pour la cessation des calamités publiques, et des extatiques, comme Marie d'Avignon, avaient prédit qu'après de longs malheurs, le ciel aurait enfin pitié du royaume. D'ailleurs, le puissant patron de la France, l'archange Saint-Michel, Charlemagne et Saint-Louis veillaient sur ses destinées. Ces prières de la terre et cette protection de l'Église triomphante furent le salut de notre pays, et le Messie tant désiré parut enfin dans la personne d'une jeune bergère de 17 ans. Bien des gens riront de cette manière d'expliquer la délivrance de la France. Mais cette explication est entièrement fondée sur les faits, et on n'en a pas encore donné d'autres qui eussent quelque apparence de raison. Du reste, c'est ainsi qu'expliquait sa mission celle qui a sauvé la France. « Je vous dis, ce sont les paroles de Jeanne au roi, que Dieu a pitié de vous et de votre royaume et de votre peuple, car Saint-Louis et Charlemagne sont à genoux devant lui en faisant prière pour vous. » En ces jours de deuil pour la France, il y avait à Don Rémy, dans la seigneurie de Vaucouleurs, une jeune pucelle, fille de Jacques d'Arc et d'Isabeau Romée, laboureurs honnêtes mais pauvres. Dans son enfance, on l'appelait communément Jeannette. Quand elle fut un peu plus grande, elle menait paître au champ le troupeau de brebis et le bétail de son père, allait quelquefois au labourage avec lui et avec ses frères pour leur aider, et faisait le ménage de sa maison avec sa mère et autre chose qu'elle lui commandait. Elle filait du chanvre et de la laine, cousait, et ne craignait, disait-elle, femme de Rouen à filer. Elle avait deux frères et une sœur, et allait souvent avec cette dernière à l'ermitage de Notre-Dame de Bermont. Sa mère lui ayant appris le Pater Noster, Ave Maria et sa créance, elle fréquentait les lieux saints fort volontiers, et allait souvent à l'église entendre la messe. Quand elle était au champ avec ses compagnes faisant paître leurs bêtes, aussitôt qu'elle entendait sonner les cloches quelque part, elle faisait le signe de la croix et se mettait à genoux pour prier. Parfois, elle se retirait à part derrière quelque haie ou buisson pour faire plus à son gré ses oraisons. Elle donnait volontiers aux pauvres, se confessait presque tous les mois, jeûnait, pleurait et faisait souvent ses Pâques, la communion. Après Dieu, elle avait une spéciale dévotion à la Vierge Marie. Tel était le sauveur préparé au royaume de France. C'était, dit Maître Martial de Paris, une chose de Dieu venue, un ange de Dieu amiable, de quoi toutefois la venue fut au royaume profitable. Dès l'âge de 13 ans, Jeanne, à cet endroit-ci, le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant le numéro 1 qui dit ce qui suit. Ce qui va être raconté de ses voix est tiré des pièces des deux procès, comme du reste tout ce qui en sera dit dans le récit de sa vie. Tous ces détails ont donc été donnés par elle-même. Retour au texte de l'abbé Jaugé. Dès l'âge de 13 ans, Jeanne eut la voix de Dieu pour se gouverner, comme elle dit elle-même. Ses voix lui vinrent pour la première fois vers midi, en temps d'été, au jardin de son père. D'abord elle eut peur, puis voua sa virginité tant qu'il plairait à Dieu, entre guillemets. Ces voix qu'elle entendit étaient celles de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite. La figure de ces saintes était, disait Jeanne, couronnée de belles couronnes fort précieuses et riches. Elle dit encore dans son procès qu'elle les accolait, embrassait, par le haut, et ne les pouvait accoler sans les sentir et toucher. Elle vit aussi plusieurs fois l'archange Saint-Michel. À cet endroit-ci, le lecteur bénévole voit une note de bas de page, portant le numéro 2, qui dit ce qui suit. La première voix que Jeanne entendit fut celle de cet archange. Retour au texte de l'abbé Jaugé. Elle vit aussi plusieurs fois l'archange Saint-Michel. La première fois qu'elle le vit, elle était jeune enfant et fut saisie de frayeur, entre guillemets. Depuis, il lui enseigna et montra tant qu'elle crut fermement que c'était il, lui. Fin de la citation. Ce messager lui disait qu'elle fût bonne fille et que Dieu lui aiderait. Il lui raconta la piété qui était au royaume de France et lui dit d'aller au secours du roi. Il lui apparaissait en la forme d'un très vrai prud'homme et à l'habit, et elle croyait en ses dits et faits, comme elle croyait que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert mort et passion pour nous, d'autant qu'il lui avait donné bonne consolation et doctrine. Entre guillemets. Jeanne voyait aussi d'autres anges. Elle leur faisait la révérence et après leur partement, baisait la terre où ils avaient reposé, entre guillemets. Elle a encore raconté qu'ils venaient souvent parmi les chrétiens, sans qu'on les aperçût, et qu'elle les y a vus maintes fois. Ses voix l'appelaient ordinairement Jeanne la Pucelle, fille de Dieu. Et, dans les derniers temps de son séjour à Domrémy, elle lui disait jusqu'à 3 fois la semaine qu'elle alla en France. À cet endroit-ci, le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant le numéro 1 qui dit ce qui suit. Ancien duché de France. Retour au texte de l'abbé Jaugé. Et, dans les derniers temps de son séjour à Domrémy, elle lui disait jusqu'à 3 fois la semaine qu'elle alla en France et qu'elle lèverait le siège d'Orléans. Elle croyait, disait-elle, que ses voix venaient de Dieu, comme elle croyait que Dieu nous a racheté des peines de l'enfer. Elle ne consulta là-dessus évêque, curé, ni aucune personne ecclésiastique. Ses apparitions lui durèrent depuis l'âge de 13 ans jusqu'à sa mort, à 20 ans. Elle lui venait plusieurs fois la semaine et en certaines occasions plusieurs fois le jour. Elle les appelait son conseil et se gouvernait uniquement d'après leurs avis. Excitée par ses voix et toute remplie de la grande mission que le ciel lui confiait, Jeanne disait quelquefois « Il y a entre Empremé et Vaucouleurs une fille qui, avant 1 an, fera sacrer le roi de France. » D'autres fois, on l'entendait annoncer que bientôt les Français feraient quelque grande chose que Dieu leur enverrait, et que Charles, fils de Charles de France, aurait presque tout le royaume. Ses voix la pressaient chaque jour de plus en plus. « Hâte-toi, » lui disaient Sainte Catherine et Sainte Marguerite, « va-t'en à Vaucouleurs, vers Robert de Baudricourt. Il te baillera des gendarmes pour te conduire au dauphin. » Ses parents n'avaient que du mépris pour ce qu'elle leur racontait de ses apparitions. Et son père eût mieux aimé, disait-il, la noyer que de la laisser aller en France avec des gendarmes. Grâce à un de ses oncles, nommé Bertrand Laxart, qui l'a pris quelque temps chez lui, elle put se rendre à Vaucouleurs chez Robert de Baudricourt, capitaine de la ville. Elle dit à ce gouverneur qu'elle était venue vers lui de la part de son Seigneur, Dieu, afin qu'il mandât au dauphin, qu'il se gardât bien de donner bataille à ses ennemis, car son Seigneur lui donnerait secours dans la mi-carême, que le royaume appartenait au dauphin, et que notre Seigneur voulait que le dit dauphin fût fait roi, et qu'elle le mènerait sacré à Reims. Baudricourt refusa de la croire, regardant ses visions comme les fantaisies d'une imagination malade, et même il l'a voulu retenir pour que, entre guillemets, ses gens s'en servissent en péché charnel, mais sitôt qu'ils la regardaient fort, ils étaient tous refroidis de luxure. Jeanne, ainsi rebutée, n'en crut pas moins fermement à ses voix. « Il, Baudricourt, disait-elle, ne se soucie ni de moi, ni de mes paroles, si faut-il pourtant que j'y sois dans la mi-carême, puisque mon Seigneur le roi du ciel le veut, et y irai, quand j'y devrais aller sur mes genoux, car je veux couronner le dauphin, et n'y a personne au monde, ne roi, ne duc, ne la fille du roi d'Écosse ou autre, qui puisse recouvrer le royaume de France, et qui ait secours que par moi. Combien que j'aimerais mieux vivre près de ma pauvre mère, vu que ce n'est pas mon état. Mais il faut que je fasse cela, car Dieu veut ces choses-ci. » Lui demandait-on quand elle voudrait aller en France? « Plutôt aujourd'hui que demain, » répondait-elle, « et plutôt demain qu'après. Le temps m'est aussi pesant de ce que je ne suis conduite vers Monsieur le Dauphin, comme pourrait être à une femme grosse. J'irai disait-elle encore, vers le roi, quand je devrais perdre les pieds jusqu'aux genoux. Après un voyage auprès du duc de Lorraine, qui l'avait appelé sur le bruit de ses apparitions, et un pèlerinage à Saint-Nicolas de Nancy, elle détermina son oncle à la ramener à Vaucouleurs. Baudricourt hésita encore longtemps, mais enfin un signe du ciel le décida à se rendre aux prières de Jeanne. Les Français venaient d'éprouver une défaite à Rouvray, à la journée dite des Harengs. Le combat avait eu lieu à une distance de Vaucouleurs de plus de 100 lieues, et cependant Jeanne le sut et l'annonça le jour même à Baudricourt, lui déclarant que, entre guillemets, le roi avait eu grand dommage devant Orléans et aurait encore plus si elle n'était menée de vers lui. Baudricourt se résolut enfin à la faire partir. Les habitants lui firent apprêter des habits d'homme qu'elle revêtit par le commandement de ses voix et lui achetèrent un cheval. Baudricourt lui donna une épée en lui disant « Va, et qu'il t'advienne ce que pourra. » Elle partit accompagnée d'un écuyer et de 4 serviteurs qui avaient juré de la conduire au roi. À son départ, ses voix lui dirent « Va hardiment, car quand tu seras devant le roi, il aura bon signal de te recevoir et de te croire. Un ange de paradis lui bâillera ce signal, et les gens d'église cesseront de targuer, ayant su ce signal. » Pendant le voyage, elle disait à ses compagnons qu'ils n'eussent point peur, car ses frères de paradis lui enseignaient ce qu'elle avait à faire, et qu'il y avait déjà 4 ou 5 ans que ses 10 frères de paradis et son seigneur, à savoir Dieu, lui avaient dit qu'elle irait à la guerre pour le recouvrement du royaume de France. Arrivée à Sainte-Catherine de Fierbois, petit village à quelques lieues de Chinon, Jeanne fit demander au roi la permission d'entrer dans la ville. Cette permission lui fut accordée, mais elle dut encore attendre quelques jours avant d'être admise à l'audience royale. Lorsque Charles, après bien des hésitations, consentit enfin à la recevoir, elle le reconnut incontinent par le moyen de ses voix, et lui dit « Ô brave seigneur dauphin, je suis envoyé de la part de Dieu pour vous donner de l'aide et au royaume. » Elle lui annonça ensuite, entre guillemets, qu'elle lèverait le siège d'Orléans par grâce divine et force d'armes, le ferait couronner à Reims, mettrait les Anglais en fuite, et que la volonté de Dieu était que les Anglais s'en retournassent dans leur pays, lui laissant son royaume en paix. Pour achever de convaincre le prince qui paraissait balancer encore, Jeanne lui découvrit un secret que seul il connaissait, et qui n'avait pu arriver à la connaissance d'autrui que par voie de révélation. On n'a jamais su précisément en quoi consistait ce secret, et Jeanne, malgré les instances réitérées de ses interrogateurs, a constamment refusé de le découvrir. Mais ce qui est certain, c'est que le roi, qui entretenait Jeanne à quelque distance de la compagnie, parut très impressionné. On eût dit, d'après Alain Chartier, que le roi venait d'être visité du Saint-Esprit même. Cependant, Jeanne n'était pas au bout de ses peines. Elle dut subir 2 examens devant les gens d'église, l'un à Chinon, l'autre à Poitiers. À Chinon, elle déclara qu'elle était envoyée de Dieu et qu'elle faisait tout par le conseil de ses voix. Les prélats et les docteurs ne trouvèrent en elle rien qui fût contraire à la foi catholique, et la reine de Sicile, belle-mère du roi, reconnut elle-même qu'elle avait gardé sa virginité. On raconte que vers ce temps, un soldat ayant osé en sa présence renier Dieu et proférer une plaisanterie grossière. Ah! En nom Dieu! Au nom de Dieu, s'écria-t-elle, tu le renies et pourtant tu es si près de ta mort! Une heure après, cet homme se noya. Sur les instances de son confesseur, le roi lui demanda comment elle entrait en rapport avec ses voies. Elle répondit qu'elle se retirait à part quand on ne voulait pas croire à sa parole et s'en plaignait à notre Seigneur. Alors une voix lui disait « Fille de Dieu, va, 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 je serai à ton aide, va. » Quand elle entendait cette voix, elle se réjouissait fort et qui plus est, en répétant les paroles qu'elle avait entendues, entre guillemets, elle s'éjouissait merveilleusement levant ses yeux au ciel. Sur ces entrefaites, le roi se rendit à Poitiers. Jeanne l'y accompagna. Elle y fut de nouveau soumise à un examen très sérieux. Interrogée sur ses voies, elle répondit, entre guillemets, que Dieu avait grand pitié du peuple de France, que ses voix lui avaient commandé d'aller en France, et qu'alors elle s'était prise à pleurer. On lui objecta qu'elle ne devait point demander de gens de guerre, si Dieu voulait lui-même délivrer la France. « En nom Dieu, dit-elle, les gendarmes batailleront, et Dieu donnera la victoire. » Frère Séguin, doyen de la faculté de théologie de Poitiers, lui demandant quel idiome parlaient ses voix. « Meilleur que le vôtre, » dit-elle. Il était limousin. Ce même examinateur lui dit qu'il serait imprudent de croire à ses paroles et de lui confier des gendarmes si elle ne montrait quelques signes. « En nom Dieu !» répondit-elle, « je ne suis pas venu à Poitiers pour y faire des signes, mais menez-moi à Orléans, et je vous montrerai des signes auxquels, pour lesquels, je suis envoyé, et qu'on me baille gens en telle quantité qu'on voudra, et j'irai à Orléans. » Elle annonça en outre à frère Séguin et aux assistants, entre guillemets, que les Anglais seraient détruits, et le siège d'Orléans levé, que le roi serait sacré à Reims, que Paris serait rendu en son obéissance, et que le duc d'Orléans retournerait d'Angleterre. À cet endroit-ci, le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant le numéro 1, qui dit ce qui suit. Il avait été fait prisonnier à la bataille d'Azincourt en 1400. 15. Retour au texte de l'abbé Jaugé. Que Paris serait rendu en son obéissance et que le duc d'Orléans retournerait d'Angleterre. On l'examina ensuite sur sa foi et ses mœurs, et on la trouva bonne chrétienne et bonne catholique. Les théologiens firent leur rapport au conseil et furent d'avis qu'on se pouvait aider de son secours. Fin du chapitre 1.